Bien, bonjour à tous, merci. Enfin, rebonjour à tous, puisque j'ai pas mal parlé ce matin. Merci Bruxelles. Non, mais je suis vachement content d'être à Bruxelles, parce que moi je suis du Nord-Pas-de-Calais à la base, alors quand je reviens dans mon coin, ça me fait toujours plaisir. Je suis content aussi parce que je fais pas mal d'interventions en France où je vois toujours les mêmes tronches, tandis qu'ici je vois des gens que j'ai jamais vus, dont certains sont agréables à regarder par ailleurs. Et je constate que l'assistance est plutôt jeune, alors que moi je me retrouve régulièrement devant une bande de vieux croutons, donc ça a un côté assez roboratif et sympathique. Moi je suis médecin, vraiment médecin, je suis très médecin moi. Je suis pas sociologue, je suis pas chercheur, mes techniques d'investigation c'est au doigt mouillé, et avec un biais qui est très gros au sens propre et figuré du terme, moi en l'occurrence. Et donc, moi, je vais vous faire un topo de bourrin, vraiment, mais qui est plutôt issu d'une expérience et d'une pratique qui commence à avoir à peu près 27 ou 28 ans et qui a peut-être une forme de légitimité. En tout cas, c'est celle qu'on veut bien m'accorder. Mais ce topo qui s'intitulait en fait dans ma tête « Pourquoi les PD prennent des risques et en prendront toujours et pourquoi il faut arrêter de se prendre le chou avec ça et de s'adapter plutôt à la situation », j'ai dû un peu le compléter parce que finalement, j'avais pas du tout prévu de parler du 190 et on m'a dit « Il faudrait quand même que tu expliques un petit peu le truc ». Alors, on dit 190 parce qu'en France, on s'estime autorisé à mal parler français. C'est un vieux truc qu'on connaît. Donc, je vais quand même faire une petite présentation et surtout qu'on arrive à 5 ans dans 10 jours et qu'on commence à avoir un petit peu les résultats du travail qu'on fait, que c'est pas forcément son intérêt. L'idée du 190, c'est né au moment où on a commencé à changer le paradigme du dépistage qui était dépister des séronégatifs pour qu'ils le restent, pour passer à dépister des séropositifs pour qu'ils le sachent et qu'éventuellement ça réduise l'épidémie, sachant que ça sortait en France au même moment que le pré-Swiss Statement, parce qu'en fait les premières communications d'Hirschel, ça date de fin 2006, et nous on a commencé à monter notre projet début 2007, donc c'était vraiment la conjonction de ça. On était déjà dans la lamentation, mon Dieu c'est affreux, les homosexuels se contaminent, etc., toujours autant, mais ils n'ont rien compris, mais on faisait toujours la même chose, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de différent de ce qui a été fait pour essayer d'avoir un impact sur des populations où le virus circulait très très fortement. Comme c'était des médecins qui étaient à l'origine de ça, on a fait du médical, hein, on a fait avec ce qu'on savait faire, et donc on a créé donc ce lieu qui dont la finalité est de faire de la prévention. Donc on a un seul objectif, c'est diminuer l'incidence de VIH dans la population qu'on touche, c'est notre raison d'être. Pour ça, on a articulé ça sur une série de principes. Le premier, c'est de proposer du médical, parce que nous, on est en France, je sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, personne ne va se lever le matin, nouer ses lacets pour aller à une consultation de prévention. Ça n'existe pas. Si on ne leur file pas des médocs, des examens, etc., il est frustré. Donc, il fallait qu'on propose du soin. Il fallait pas qu'on fasse la différence entre les séropositifs et les séronégatifs, parce que pour l'instant, il y a un apartheid. Les lieux de dépistage où il y a des séronègres, les lieux de soins, il y a des séropos. Mais pourtant, le problème de la transmission, c'est quand les uns et les autres se rencontrent. Donc, s'ils se rencontrent pas dans le milieu de soins, ça nous paraissait un petit peu bizarre, outre le fait d'être un peu discriminant. La troisième chose, c'était mettre la sexualité au centre de la prise en charge, parce qu'on se rappelait que c'était une maladie sexuellement transmissible au départ, l'infection par le VIH, et que quand on ne tient pas compte de la sexualité, on risque d'avoir des petits ennuis. Avec deux propositions. La première, c'est ce qu'on a appelé le contrôle technique et qu'ensuite on a baptisé plus élégamment de salade tomate-oignon, qui était un check-up exhaustif des IST à l'anglaise, c'est-à-dire on prend tous les trous, on met des écouvillons dedans, on teste tout ce qui arrive et on soigne, ce qui nous amène quand même à avoir en moyenne 20% de personnes qui n'ont pas de symptômes et qui sont porteurs d'une IST, qu'à ce moment-là on va pouvoir traiter et guérir et donc réduire en théorie, puisqu'il y a quand même pas mal de papiers qui vont dans ce sens, les portes d'entrée au VIH, et donc faire en sorte que l'exposition soit moindre. C'est aussi une technique de réduction des risques qui se rajoute à l'autre. Et aussi faire de la prise en charge ambulatoire de l'infection par le VIH, parce que d'abord l'hôpital devient répulsif pour certaines personnes, et notamment pour les très jeunes, qui payent un très très gros lourd tribut en ce moment à l'épidémie de VIH en France. Et aussi parce que, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, parce qu'on voulait mettre en place, avant que ce soit une recommandation, nationale, le principe de traitement universel et le principe de traitement immédiat de la primo-infection, sachant qu'on considère, et puis tout ce que j'ai entendu ce matin dit à peu près la même chose, que l'épidémie VIH repose sur les gens qui ne connaissent pas leur séropositivité, et notamment à un moment où ils sont très contaminants, et notamment au moment de la primo-infection. Ça nous amène donc à voir des gens. Bon, la première année, on a fait 1000 consultations, cette année, on en a fait 7000, donc ça, en 5 ans, ça a quand même plutôt bien marché. Pour une toute petite structure qui fait même pas 100 mètres carrés, où avec toute l'équipe, on doit faire 3 équivalents temps plein de médecins, et on a une file active donc maintenant de plus de 2000 patients, dont entre 5 et 600 sont suivis pour leur infection par le VIH. Une file active qui est composée à une petite moitié de personnes séropositives, à une grosse moitié de personnes séronégatives. Ce sont des gens qui sont un peu sélectionnés, c'est-à-dire c'est pas qu'on refuse l'entrée, mais enfin on essaye de toucher ce qu'on appelle un peu les mauvais garçons, c'est-à-dire les gens qui n'ont rien compris à la prévention et qui font tout de travers, les gens qui baisent avec tout le monde, qui se protègent pas tout le temps, qui chopent des ch'touilles du matin au soir. C'est plutôt ceux-là qu'on vise, parce que les autres, en fait, on en a rien à foutre. Enfin, nous, ils ont déjà ce qu'il faut, donc ça se passe très bien pour eux. Nous, on voulait plutôt ceux qui étaient très très exposés. Et puisque c'est le moment de se vanter, on est très surpris de nos résultats, puisque sur une première évaluation qui a été faite par l'INSERM à notre demande, on a eu une incidence du VIH dans notre population les 3 premières années qui était de 0,6%, alors que si on compare à des populations qui ont été étudiées et qui sont du même style, notamment celle de l'étude Prévaguet, qui est une étude de prévalence, on s'attendait à du 3,54%. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Pour l'instant, ça marche mieux que ce qu'on imaginait. Nous, on se dit, si on a du 2%, on sera content par an. 0,6% en 3 ans, c'est quand même très très en dessous, c'est sûrement surestimé, mais quand même. Il y a l'impact du traitement des IST, évidemment, qui joue. Il y a l'impact du traitement universel. Il y a un truc qu'on n'avait pas du tout prévu au départ, mais je pense qu'on a le record, on a le record de France de prise en charge de primo-infection. On en a pris 45 en charge cette année dans un micro-établissement de rien du tout, alors que les gros hôpitaux parisiens qui ont des files actives de 3000 patients, etc., prennent 10, 20 primo-infections en charge à tout casser par an. Et alors ça, on sait pourquoi. On a autant de primo-infections, c'est grâce aux TROD, pas ceux que nous on fait parce que nous on n'en fait pas, mais grâce à ceux que font les autres. Je m'engueule depuis des années avec les virologues qui disent le TROD c'est pas bien pour les primo-infections, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas le meilleur outil virologique, mais c'est le meilleur outil pour que les gens répètent les tests, et donc du coup c'est grâce en fait aux programmes communautaires avec lesquels on travaille, avec Aide, avec le kiosque qui a aussi un gros centre de dépistage utilisant des TROD, c'est avec ça qu'on arrive à choper des gens très précocement en primo-infection, et donc à les prendre en charge immédiatement, au moment où leur charge virale est la plus élevée, pour aboutir à une réduction extrêmement rapide et drastique de la virémie. Sachant que quand les mecs, on leur explique que là, pendant quelques semaines, ils sont méga contaminants, ça va, ils ont compris, ils font pas les cons en général, ils se calment avant que ça reprenne. Donc, et troisième, probablement aujourd'hui, un troisième élément qui par lequel on explique le succès préventif du truc, bon, qui a demandé de ma part notamment une très grosse enquête de sociologie participative où j'ai dû aller boire des canons à peu près dans tous les bars PD de Paris pour voir qui cause avec qui. On s'est rendu compte que les gens en fait viennent chez nous par bouche à oreille, allez, je vais la sortir encore, mais il y a personne qui me connaisse qui, en milieu gay, le bouche à oreille s'apparente souvent à un tête à queue. Et ça permet finalement, le fait d'intervenir dans des réseaux sexuels fait que les interventions à la fois sur les IST et sur la réduction de la charge virale communautaire peuvent avoir plus d'impact que dans des lieux très larges qui recruteraient sur une très grande surface des gens qui n'ont rien à voir entre eux. Donc voilà, c'est pour ça que je me refuse toujours à ce que le centre devienne un jour une grosse machine sur 17 étages, même si je gagnerais sûrement mieux ma vie, mais que plutôt si on devait se développer, on développerait d'autres structures éparpillées qui chacune attaquerait un réseau, parce que ça, je crois que c'est un truc qu'on n'a pas encore assez bien utilisé en prévention, c'est-à-dire la dynamique de réseau. Ça a été confirmé par les virologues qui nous ont montré que quasiment tous nos patients qui arrivaient contaminés avaient tous le même virus, tout le monde a un cluster, et probablement on est vraiment sur des gens qui se transmettent très rapidement le VIH en primo-infection. Ce qui rend les choses faciles pour parler de sexualité, c'est que la spécificité du... Alors, on s'appelle centre de santé sexuelle, non pas parce qu'on a voulu s'appeler centre de santé sexuelle et qu'on fait de la santé sexuelle, on voulait s'appeler centre de santé gay, et on nous a dit, si vous vous appelez comme ça, on ne vous subventionnera pas parce que c'est discriminant, donc on s'est appelé centre de santé sexuelle, et on n'a pas été subventionné quand même, selon la vieille tradition. Mais maintenant, du coup, le mot est devenu une espèce de mode en France, et tout le monde veut être centre de santé sexuelle, y compris les gens qui font trois trottes dans leur coin. Ça un peu plus compliqué parce que l'offre est quand même un petit peu plus complète que ça. Et notamment, on a l'avantage de pouvoir parler de sexualité assez facilement. Un, parce que c'est marqué sur la porte. Deux, parce que, mine de rien, il y a une présomption d'hétérosexualité qui vient remplacer une présomption d'homosexualité, pardon, chez nos usagers quand ils viennent, qui vient remplacer la présomption d'hétérosexualité quand ils vont dans un lieu qu'on va qualifier de mainstream, et qui, du coup, fait qu'ils ont décidé qu'on ne serait pas choqués avec ce qu'ils nous racontent. Il faut admettre qu'on l'est rarement, encore qu'il y en a qui... On découvre toujours des choses. Et qu'on savait de quoi il parlait. Ce qui fait que même si l'équipe n'est pas une équipe entièrement gay, il y a même des femmes hétérosexuelles, ils balancent la purée assez facilement. Et du coup, on peut parler quand même des vraies choses et de ce qui se passe réellement. Voilà, c'était un petit peu la présentation du contexte qui m'amène éventuellement à oser vous parler de sexualité. Bon, la sexualité des séropos, elle n'existait pas, on l'a dit ce matin, pendant très très longtemps, les séropos n'avaient pas de sexualité. Ça a été décidé, à mon avis, dans une espèce d'alliance thérapeutique entre les séropositifs et les soignants. On était dans les années 80-90. Bon, c'est vrai que le Kaposi, c'est pas très sexy. Les lipodystrophies, ensuite, ça l'était pas tellement. Les gens n'avaient pas forcément une perspective de vie très 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 intéressante. Mais globalement, à partir du moment où le statut sérologique était connu, le milieu de soins a considéré que la sexualité s'arrêtait ou éventuellement pouvait se poursuivre de façon, si possible, étiolée, dans un respect total, absolu d'une doxa préventive. Et d'ailleurs, quand on abordait la sexualité jusque dans les années 90, c'était strictement sous l'angle de la prévention. Et je suis surpris qu'encore, j'ai cité un ou deux colloques sur sexualité des séropos où on parlait que de prévention et jamais de vie sexuelle et de qualité de vie sexuelle. De toute façon, au-delà même des questions de compréhension de la séropositivité ou de retentissement somatique de la maladie, dès le départ, dire qu'on était séropos supposait quand même une fin de non-recevoir dans le cadre de la rencontre, et ça n'a pas forcément favorisé évidemment la sexualité. C'est probablement pour ça que les séropositifs, hommes ou femmes, hétéros ou homosexuels, ont souvent dû organiser leur sexualité autour d'un multipartenariat de contraintes, puisque la maladie empêchait la construction d'une relation un petit peu sur la durée, dans un partage mutuel, notamment de cette information. Je ne suis pas certain, je suis même sûr du contraire d'ailleurs, qu'on soit particulièrement bien saisi du débat qui a d'ailleurs été très largement faussé, qui est encore d'ailleurs très largement faussé sur le bareback. Le bareback en tant que sexualité non protégée, organisée entre gays séropositifs, c'est quelque chose qui remonte au moins aux années 90, et même au début des années 90, mais il a conquis une place, ce débat, à peu près vers 96, autour des fantasmes de transmission et de contamination volontaire. C'était plutôt un voyeurisme assez malsain, mais de toute façon, pour nous, nos patients n'étaient pas bareback, puisqu'ils n'avaient pas de sexualité à faire classer. La sexualité des séropos, elle apparaît dans le champ médical, en tout cas chez nous, hein, je suis dans une perspective française et plutôt parisienne, vers 2000. Alors, évidemment, 98, on a vu les chaudes pisses arriver, mais c'était pas très spécifique, en fait, ni des séropos, ni des PD, ni de tout ce qu'on veut. Mais par contre, 2000, la syphilis revient. La maladie ancestrale menaçante, ça a choqué tout le monde. Et quand j'ai été repéré, moi, à l'hôpital, comme le type qui s'intéressait à la sexualité des séropos, les premières personnes qu'on m'envoyait, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu arriver, c'était « Bon, je t'envoie machin, fais quelque chose ». Il m'a fait, comme si c'était le gamin à sa maman, il m'a fait de syphilis déjà, démerde-toi, mais c'est pas possible. Là, on s'est dit « Tiens, les séropos baisent ». Et finalement, tout le monde a, à partir de cette réinvention du tréponème par nos patients, tout le monde a redécouvert une organisation sexuelle un petit peu underground, dont ils avaient vaguement eu vent, qui pour eux était plutôt le décor de la contamination que celui de la vie de nos patients, tout en plus qu'ils n'avaient pas du tout la tête de l'emploi, c'était des gens bien sous tout rapport, tout gentils, mignons, qui disaient « oui, docteur » après chaque phrase. Donc ce fut l'entrée de la sexualité dans la médecine du VIH, après quasiment 20 années d'une épidémie qui pourtant était emblématique du risque sexuel. On a réagi à ça avec notre logiciel, qui était celui du comportement. en tout cas de la prévention comportementale, qui a amené à ce concept là, qui était évoqué ce matin et qui me donne toujours des boutons quand je l'entends, la prévention positive. Bon, déjà, je trouve que mettre positif pour laisser repos, enfin, il y a un jeu de mots que je trouve un peu limite. À côté de ça, les mecs qui se faisaient virer par tout le monde parce qu'ils laissaient repos, en plus, on leur expliquait que c'était eux qui devaient supporter la prévention des séronégatifs, qui pouvaient peut-être se démerder aussi un petit peu tout seuls. Et d'ailleurs, ça est tombé un petit peu en désuétude. On n'a pas été très performant, de toute façon, dans le discours. On a expliqué quand même à des patients qui étaient déjà séropos depuis un petit moment, vers les années 2000, qui commençaient à peine, à s'habituer au fait qu'ils n'allaient peut-être pas mourir tout de suite, qu'une blénorragie, mon Dieu, mais quelle horreur, c'est la fin du monde, etc., alors qu'ils venaient de se taper quand même des années de vie en sursis. On a renforcé ça avec une petite lichette de surcontamination, qui est le vieux serpent de mer de la transmission. Comme je dis souvent, on en a tous vu, mais on a tous vu le même, en général vers 98-99. Et tout ça en dépit de l'expérience de nos patients qui, quand même, avaient une vie sexuelle dont ils ne nous parlaient pas forcément, mais assez riche, qui avaient des rapports non protégés avec pas mal de gens et qui restaient toujours dans un contrôle immunovirologique parfait, ce qui en tout cas, était une négation du discours qu'on tenait à l'époque. Qu'est-ce qui leur est donc arrivé ? J'aime bien les pauses, parce que comme ça, ça va savoir où j'en suis, parce que sinon, après, je me perds. Bon. Je disais tout à l'heure que les séropos vivent souvent un multipartenariat de contraintes. Alors d'abord, ils sont moins souvent en couple que les séronégatifs, ça c'est une réalité. Et chez les gays, déjà, les séronégatifs ne le sont pas beaucoup non plus. Et ça, j'y reviendrai parce que c'est un déterminant qui est extrêmement important. Leur séropositivité va leur interdire de s'investir dans une relation stable du fait d'un rejet fréquent, de sérophobie, comme on dit, ou tout simplement, et très souvent d'ailleurs, d'autocensure, après avoir été humilié à une ou plusieurs occasions. Souvent, la première rencontre après la découverte de séropositivité va être déterminante. Si je le dis et que je me fais accepter, ça va être vachement plus facile par la suite. Si je me fais jeter immédiatement, la prochaine fois, je vais quand même y aller en serrant légèrement les fesses. Donc voilà. Oui, les femmes nous racontent la même chose d'ailleurs, hein, c'est pas spécifique aux gays. Par contre, l'organisation de la sexualité, elle, en contexte homosexuel masculin, elle n'a pas vraiment changé. Un acte sexuel n'est pas nécessairement la résultante d'une rencontre affective qui va se concrétiser par un rapport charnel. Ça peut être un loisir, un sport, voire une passion pour certains. Et si on ne tient pas compte de ça, on ne peut absolument pas travailler sur la sexualité gay. Ce sont des hommes, ils ont une organisation différente. Ce sont des gays et ils ont une construction sexuelle différente, sur laquelle je reviendrai aussi éventuellement. Et ça peut pas être le même mode, le même logiciel de raisonnement que sur la sexualité de la plupart des gens. La sexualité gay, elle s'est construite dans la clandestinité, toujours. Pour des gens de ma génération, quand j'étais adolescent, c'était encore un fléau social, la fameuse histoire de l'homosexualité, ce douloureux problème qui a donné lieu à la naissance du phare dans les années 70, etc. La plupart des gens ont débuté leur sexualité dans une organisation furtive de la rencontre, aussi furtive que publique, parce que c'était quand même la grande période des parcs et jardins, qui sont un peu tombés en désuétude, mais qui ont été le lieu d'initiation de générations et de générations de gays, ce qui n'est pas quand même des lieux où... le seul avantage des parcs, c'est que pour les pipes, c'est pratique, parce que l'herbe, ça fait pas mal aux genoux. Pour le reste, pour l'intimité, on va dire que c'est quand même un petit peu limite comme endroit pour se sentir bien. Donc, voilà, la libération sexuelle des années 70, elle a été particulièrement saisie par la minorité gay, avec la part de défi qui caractérise très souvent les minorités qui sont dans un processus d'émancipation. Et en plus, à une époque où les maladies vénériennes, une piqûre dans le cul, c'était réglé et c'était plus un problème. La syphilis était vaincue grâce à la pénicilline. Ce qui fait que finalement, le sida a été d'autant plus choquant, non pas parce qu'il ajoutait un risque supplémentaire à une sexualité qu'on comportait déjà par nature beaucoup, mais parce que surtout il survenait à une époque où justement tous les verrous étaient en train de se lever et où le milieu était en train de s'émanciper et de sortir de l'ombre. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi la question ? Est-ce que ceux qui sont séropositifs et qui ont des partenaires multiples, souvent sans protection, est-ce que c'est des grands fous, des irresponsables, des espèces de trompe-la-mort, des hystériques, des sex-addicts ? Faut-il les soigner ou les guérir ? Nos patients savent qu'ils ne mourront pas du sida. Ils ont une expérience de la maladie qui les a conduits essentiellement à vivre dans la terreur de la transmission, ce qu'on a toujours tendance à oublier. Et paradoxalement, leur vécu du rejet des autres peuvent les amener effectivement à laisser ces derniers prendre leurs responsabilités, parce que finalement, ils ne peuvent pas tout prendre dans la gueule. Ils ont des grandes difficultés pour beaucoup à s'inscrire dans une perspective de vie affective, et c'est là que le thérapeute d'ailleurs peut agir de façon assez pertinente. Et en plus, il y a une organisation de la rencontre et du milieu qui est propice au moins à la poursuite d'une sexualité au minimum un peu ludique, qui permet de temps en temps de faire abstraction de la protection laïque et obligatoire représentée par le préservatif dans les discours préventifs. Mieux, maintenant les réseaux et ça, l'informatique a quand même vachement aidé ça, mais pas seulement, il y a des lieux organisés pour ça, il y a des lieux réservés aux séropos qui peuvent avoir des rapports non protégés, ce qui va transformer le « t'es séropo, tu dégages fissa » en « séropo is beautiful ». Ouais, les séropos, oh, t'as une charge indétectable, chouette. Et là, tout d'un coup, ce qui était l'objet de rejet devient presque un objet d'attraction, ce qui est quand même sympa quand on a vécu 10 ou 15 ans dans le rejet. Est-ce qu'il faudrait mettre ça de côté à cause d'une ou deux maladies qui soignent assez simplement et dont les complications sont essentiellement dues au retard du diagnostic de la part des médecins? En tout cas pour la syphilis, c'est souvent ça. Je ne suis pas sûr que ce soit un argument très pertinent à proposer à des gens qui sont dans cette situation. C'est dommage, en tout cas, quand l'émergence du bareback s'est faite, que la réflexion ait pu être polarisée autour d'une opposition frontale entre tout avec risque et tout sans risque, autour donc du fantasme de transmission volontaire. C'était le documentaire de Louise Hogarth, The Gift, quand on lit l'histoire de quelqu'un qui cherche à devenir séropo, et en France en tout cas, d'espèces de faux débats très largement manipulés par la presse entre Dustan et Lestrade, qui sont tous les deux faits manipuler, à mon avis, contre leur gré, pour balancer des conneries, alors que les deux disaient des choses très intelligentes. J'ai, dans une autre activité, j'ai relu les trois premiers bouquins de Dustan, sa trilogie auto-bio-pornographique, qui avait été à l'origine du scandale à l'époque. Alors, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même du petit joueur. Hein, je veux dire, le pauvre, il a eu un rapport non protégé, après il s'est flagellé pendant deux jours en disant « j'ai fait quelque chose de mal ». Avec ça, on lui a fait un procès, et en même temps, ce qu'il décrit sur la peur de la transmission et la peur de la mort dans son premier bouquin, ce qu'il décrit sur l'espèce d'ennui de la drague, de quelqu'un qui ne peut pas faire autre chose que draguer pour amener un coup, dans son deuxième bouquin, la manière dont il décrit comment il s'enfonce dans une hypersexualité sans contrôle, sous drogue, dans un contexte de dépression hallucinant, c'est parfaitement adaptable à ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est cliniquement parfait, et je pense que c'est très intéressant pour les soignants de lire ou de relire ça, qui nous éclaire pas mal et qui est toujours totalement d'actualité. Les premières années du bareback, ça remonte à longtemps, et pour ma part, comme j'étais dans le Nord, la première fois que j'ai entendu parler, c'était à Bruxelles, vers 93-94, où il semblait qu'il y avait des soirées qui s'organisaient, où les gens devaient arriver avec leur test positif. Il n'était pas question qu'il y ait des séronégatifs qui rentrent dans des partous organisés où il pourrait y avoir des contaminations. Et déjà à l'époque, on se disait, mais s'il y a des séronégatifs qui se procurent des faux tests positifs pour rentrer dans des soirées réservées aux positifs, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que les séropos sont organisés pour respirer un peu avec leur sexualité, pouf, il y a toujours des gens qui ont dit « mais ça va être une catastrophe ». L'idée étant derrière ça, un concept préventif totalement, à mon avis, idiot, c'est que si les séropos pourraient avoir un petit avantage dans leur vie, ça voudrait dire que tout le monde rêverait du coup d'être séropo, chouette, et ce qui, à mon avis, consiste à prendre globalement les gens pour des cons. Je vous ai dit que c'était bourrin, hein. Je suis désolé. Enfin bon, en tout cas, il y a eu ça, et c'était les Jacob Party à l'envers, si on veut. Ou en tout cas, la pratique d'une sexualité non protégée s'inscrivait en opposition complète avec l'idée que ça puisse amener qui que ce soit à la contamination, et c'était au contraire une adaptation préventive des séropositifs dans un contexte de vie rallongée aussi, où tenir la prévention orthodoxe dans le temps était forcément très compliqué. N'empêche qu'évidemment, le bareback va se développer peu ou prou à partir du moment où les trithérapies entrent en scène et au moment où on commence à se rendre compte que ça marche, et c'était très traçable avec gonocoque 98, syphilis 2000, LGV 2003, avant d'arriver à l'épidémie d'hépatite C en contexte sexuel qu'on connaît depuis 2005 et qui aujourd'hui se développe plus à l'occasion de pratiques injectables qu'à l'occasion de pratiques sexuelles, notamment hard, comme c'était le cas à l'époque, mais qui existe toujours. Donc voilà, on leur a dit, mais mon Dieu, mais vous savez, le VIH, bon, ça va. Oh, mais alors la syphilis, mon pauvre gars. Alors oui, il y a des complications de la syphilis un peu chez les séropos, mais enfin bon, pareil, les syphilis neurologiques graves, on en connaît tous, on connaît tous le même. J'en ai qui sont à 15 et qui se portent comme des charmes. Nos patients avaient peur, hein, quand même. Ils ont peur de choper la syphilis. Ils sont pas contents quand ils ont la bite qui coule. Mais surtout à l'époque, ils venaient d'obtenir un sursis dont ils savaient pas combien de temps il allait durer. Et les gens avaient un souhait absolument éperdu de profiter un tout petit peu de ça plutôt que de faire le deuil du deuil indéfiniment, comme on le racontait à l'époque. Ils savaient pas à l'époque que leur durée de vie serait plus ou moins normalisée. Alors franchement, une syphilis, c'est anecdotique. Le véritable problème qu'on a aujourd'hui, c'est un relatif glissement de la norme, qui est largement alimenté d'ailleurs par le discours public sur le sexe gay non protégé. Mais bon, il semble illusoire, à mon sens, d'imaginer qu'on ira plus loin. La majorité des gays, séropos ou non, se protègent, bien plus que les hétéros en tout cas. Et pourquoi on a des conséquences aussi terrifiantes en termes de nouvelles contaminations ? C'est tout simplement parce que le risque n'est pas dans le comportement, mais que le risque est dans l'environnement. Dans notre culture, qui est très influencée par les statistiques, par l'évaluation, l'épidémiologie, on est resté bloqué, effectivement, sur la question des comportements, en oubliant l'influence de l'environnement sur les événements pathologiques. Premier élément d'environnement, c'est la rareté du fait homosexuel. Je sais bien que, depuis les travaux de Kinsey, tout le monde, notamment chez les gays, ont décidé que 10% des mecs étaient homos, et en plus tous mignons, forcément. Les gens qui ont des relations homosexuelles actives, pas ceux qui ont fait touche-pipi il y a 20 ans, hein, ceux qui en ce moment baisent avec des gens du même sexe, hommes et femmes, c'est à peu près 2% de la population. Si on dit qu'on est dans une population où il y a moitié d'hommes, moitié de femmes, ce qui est à peu de choses près exact, donc les PD, c'est 1% à tout casser de la population adulte. C'est une toute petite population, minuscule. À l'intérieur de cette population-là, si je prends les statistiques françaises, il y a 16-17% des gens qui sont séropositifs, 20% à peu près à Paris. Donc évidemment, oublier sa capote et baisser son slip en contexte gay parisien, c'est pas la même chose que dans un contexte que je qualifierais d'agricole creusois. Le risque de croiser le virus est évidemment beaucoup plus élevé. Premier facteur environnemental qui est très important, puisque les homosexuels masculins ont par définition une sexualité endo-communautaire. Ils ne baissent pas avec des femmes hétéros, ce qui est un peu une définition. On peut fantasmer, hein, quand même, comme le font les pouvoirs publics, et je sais que je vais m'attirer la foudre des sociologues sur les HSH, sur quoi je reviendrai un peu tout à l'heure, et l'épidémie cachée des bisexuels, mais n'empêche que, moi, depuis 27 ans, quand je vois arriver des gens à l'hosto, ils sont homo, ils sont pas bi. J'ai même une fois, j'ai beaucoup ri, un patient qui venait de découvrir sa séropositivité, marié, enfant, etc., etc., et puis il me dit, attention, dans votre dossier, vous mettez pas bisexuel, hein, vous mettez homo, hein. Moi je suis PD, je suis marié, j'ai des enfants, parce que, hein, mais on rigole pas avec ça. J'ai jamais cru un seul instant que j'étais pas PD. Bon, donc l'épidémie, elle est quand même très largement et identitairement homosexuelle, et je dirais même qu'on a même tellement voulu, à juste titre d'ailleurs, hein, s'occuper des pauvres filles, les pauvresses, les neuneux, etc., parce qu'on est caritatif dans l'âme et qu'on aime bien ça, c'est souvent des CSP++, et tout cela est vrai, même si c'est pas les seuls. Deuxième élément d'environnement, c'est le célibat. Je vous rappelle que 70% des hommes et des femmes hétérosexuels vivent en couple, si on considère le couple comme des gens qui vivent ensemble, etc. 30% des homos, sans différence nette entre hommes et femmes, d'ailleurs, contrairement à une vieille légende qui dit que les filles, elles se foutent en couple au deuxième rendez-vous et les homos jamais. Le 30%, c'est quand même pas beaucoup. Alors, chez les séropos, c'est encore moins. Donc, on se retrouve avec une proportion énorme de gens qui sont célibataires. Et ça, pour ceux qui ont fait de la médecine et qui se rappellent de leur cours de première ou deuxième année, célibat, facteur de risque pour la santé. Facteur de risque, parce qu'il n'y a pas de régulation par l'autre à l'intérieur d'un coup. Facteur de risque, parce que personne ne va dire, chérie, tu picoles trop, parce qu'on se fait mal à bouffer, etc. On sait ça dans toutes les maladies chroniques. Traiter un diabétique célibataire, c'est plus compliqué qu'un diabétique marié, sauf si sa femme est une bonne cuisinière. Et dans le cancer, les gens qu'on voit arriver avec le premier jour avec 14 métastases, ils sont vachement plus souvent célibataires que celui qui est dépisté à un stade précoce. Donc, on a une population qui, par ça, son organisation sociale est une population à risque pour la santé, parce que c'est une population de célibataires. Alors, pourquoi ils sont célibataires, d'ailleurs, les gays ? Il y a une explication assez classique qui est, bon, voilà, il n'y a pas d'enfants, donc il n'y a pas vraiment d'obligation de faire tout ça, pourquoi s'emmerder ? Puis, c'est tellement chouette de pouvoir baiser avec tout le monde, en couple, c'est plus compliqué, enfin bon, etc., etc. Bon, peut-être. Alors moi, j'ai une autre explication que j'aime bien livrer parce que je n'ai jamais entendu. C'est le coming out. Alors, je reviens quand même sur cette histoire qui est une histoire extrêmement importante. Quand un adulte homo des deux sexes fait la réécriture biographique de sa vie, écrit sa légende pour la postérité, il va parler de son coming out comme un grand moment de passage, de libération. C'est une des étapes, effectivement, dans la construction d'une personne sociale homosexuelle, le moment où je vais dire ce que c'est que le coming out. Alors, comment ça se passe un coming out dans la vraie vie ? Alors, d'abord, on va commencer à tester avec deux, trois potes. Parce que le vrai coming out, c'est avec les parents. On commence avec deux, trois potes. Alors bon, il y en a un qui va dire « Oh putain, on a passé une nuit en camping dans la même tente. Oh, à quoi j'ai échappé ?» Il y a l'autre qui veut être compréhensif. « Et alors, tu fais l'homme ou tu fais la femme ?» Et puis si l'un ou l'autre a deux jeunes enfants, ils vont quand même les mettre de côté parce que pédéraste, bon, bref. Mais bon, globalement, il y en a qui vont bien accepter. On l'a toujours su. Enfin bon, tout ça, ça va et arrive le moment où on va avouer, puisque c'est le terme habituel qui quand même sent un peu son prétoire, son homosexualité à « Papa, maman, je suis homosexuel ». Bon, alors quand c'est un hétéro qui ramène son premier conjoint dans son histoire de sexe opposé à ses parents, les parents vont assister à la situation, il y en a qui vont se dire « Oh, il n'est pas un peu jeune quand même ?» ou alors « Il était temps, selon, il y a... Je l'aime pas. Ça, c'est la mère juive. Il y a je l'aime bien. Il y en a même des grands romantiques qui vont déjà imaginer les petits enfants, la maison, quelle voiture ils vont leur offrir pour leur installation, etc. Je doute que la première image qu'ils auront de ces deux tourtereaux, ce sera une déclinaison complète du Kama Sutra à poil dans les endroits les plus incongrus. Quand un jeune homme va déclarer son homosexualité à ses parents, je vous garantis dans le mille que dans les 30 secondes, il se demande s'il est au-dessus ou en dessous, et il déroule le chapelet en disant pourvu que ce soit pas lui qui se fasse enculer, mais ils oseront rarement quand même aborder la question. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que le coming out, c'est une expérience exhibitionniste. C'est une expérience extraordinairement transgressive où devant les gens avec qui on ne partage pas la question sexuelle, on se retrouve dans une exhibition sexuelle totale qui est un truc d'une humiliation absolument formidable parce que tout le monde, ça, je veux dire, la grande phrase réconciliation, c'est « tu seras toujours mon fils » comme si... Il y avait un doute sur la question. Enfin, je veux dire, tout ça est tellement passé dans les habitudes qu'on trouve ça tout à fait évident, mais non, c'est pas du tout évident. Et le coming out, c'est le truc le plus épouvantable que les gens vivent dans leur existence d'homo. Et combien de fois, moi, ai-je entendu des gens, et ça, c'est un des grands problèmes du secret dont on parlait ce matin, me dire, moi, dès que je dis que je suis séropos, j'ai l'impression de revivre mon coming out, c'est juste absolument épouvantable. Le couple, c'est quoi ? C'est un coming out généralisé. Alors, imaginez l'agence immobilière. Putain, ils prennent qu'une seule chambre avec tout ce qu'ils gagnent à deux, c'est quand même bizarre. L'employeur, quand on met Jean-Pierre sur la mutuelle de Jean-Paul, ça fait quand même un petit peu truc. La boulangère, le plombier qui se demande bien avec ces deux mecs dont aucun ne sait réparer le robinet de la chasse d'eau, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, c'est en permanence une espèce de reconfrontation à ce moment dramatique et en même temps la répétition permanente d'une transgression dans une sexualité qui sait, j'en reviendrai après là-dessus, vous dire, ça n'en finira jamais. Ce truc qui s'est construite essentiellement sur la transgression. Donc ça, je pense que c'est la deuxième raison du célibat. Et c'est le deuxième facteur environnemental de l'épidémie de VIH chez les homos. La troisième raison, à mon avis, c'est iPhone et EasyJet. Alors, je cite des marques parce que, comme je ne suis pas payé... ça me permet de toucher, parce que là, je peux plus toucher d'argent dans la société pharmaceutique en ce moment, donc voilà. En fait, les smartphones et les vols low cost. Le smartphone, en fait, c'est pas le smartphone le problème, c'est la géolocalisation. Il y a eu les parcs et jardins, il y a eu les petites annonces dans Guépier, il y a eu le Minitel. Alors bon, moi, j'ose plus parler de ça aux gens avec qui je travaille parce qu'ils se demandent si j'ai connu Jeanne d'Arc aussi. Il y a eu l'arrivée des sites de rencontres par la suite, et donc là, ça a commencé, on est passé quand même à une stratégie de consommation un petit peu plus importante. Les sites de rencontres, ça permet quand même d'éviter ce truc qui est terrible pour tout le monde, qui est la drague directe, parce que tout le monde est timide, et pour tout le monde, on chie dans son froc quand on aborde quelqu'un, tandis que par Internet, c'est mieux. Mais alors là, la géolocalisation, il est à 200 mètres. Et là, je veux dire, je suis désolé, mais on peut pas être excité de la même façon par quelqu'un dont on sait pas s'il est seul, s'il est là pour draguer, s'il s'est perdu dans un endroit où il avait rien à faire, s'il a envie de quelqu'un ou envie de vous, s'il y a quelqu'un avec qui le contact te prend et qui est à 200 mètres, l'excitation, elle monte à toute blinde. Donc, on le connaît pas, mais on le reconnaît, parce que mine de rien, il y a les photos, il y a la façon de parler, il y a des choses comme ça. On va reconnaître la classe sociale et les gens s'apparient très facilement à l'intérieur de leur classe sociale et considèrent que les gens de leur classe sociale sont des gens comme eux, donc sans risque. Et en plus, comme ils sont à 200 mètres, ça se finit par « t'es clean, oui je suis clean, et toi, oui je suis clean ». Ce qui veut absolument rien dire, mais ce qui veut dire qu'on peut y aller, que si on oublie la capote, c'est quand même pas grave, on est du même milieu et on est tous clean, donc la vie est belle. Ça a complètement changé le rapport au risque, je pense, et c'est devenu aujourd'hui le moyen principal de rencontre. Le low cost, ça fait que la géographie du sexe a totalement changé. Alors nous, ça faisait longtemps qu'on allait à la démence parce qu'il y avait déjà le train et la bagnole, mais maintenant avec le TGV, Thalys, c'est quand même mieux. La démence, c'est un peu la fête du slip quand même, on est d'accord. Les pèlerinages à Amsterdam pour les week-ends cuir ou à Hambourg, c'était quand même un truc fait de la préparation de l'argent. Maintenant, EasyJet... On est au Bargain à Berlin, au Terminolab, et on arrive à se faire le tour opérateur complet, VIH, bléno, syphilis, hépatite C, en une soirée, ce qui est quand même, en termes de taylorisme sexuel, c'est quand même un truc qui est quand même vraiment pas mal. En plus, ça a vidé les espaces classiques où la prévention s'était organisée à l'intérieur de groupes qui fréquentaient des lieux. Et donc, ce qui a été quand même la force des années 90, entre parenthèses, il y a tellement de gens qui sont contaminés dans les années 90 que j'aimerais bien savoir si la légende dorée qui dit que tout le monde se protégeait est quand même si vrai que ça. Mais en tout cas, ce qui avait fonctionné relativement bien, c'est-à-dire une activité sexuelle plus ou moins contrôlée, mais dans un groupe qui pouvait être protecteur, est aujourd'hui une activité sexuelle plus ou moins contrôlée dans un groupe qui est incitateur. 5 minutes, oui, c'est bon, allez. Je voudrais terminer juste en rappelant aussi que l'identité homosexuelle aujourd'hui n'est pas si facile que ça, elle est quand même mise à mal. Je vous rappelle d'abord quand même que s'accepter comme homosexuel, c'est dire à soi et aux autres que la sexualité a une importance suffisante dans sa vie pour se mettre en danger socialement et même en termes de santé depuis l'éruption du VIH. J'ai parlé de minorité gay jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé de communauté gay parce que ça n'existe pas, la communauté gay. Par contre, elle devrait beaucoup plus, à mon avis, se considérer comme une minorité et accepter les organisations qu'ont fait toutes les minorités, qu'elles soient ethniques, religieuses ou autres, qui leur ont permis de mieux se fédérer en tant que telles. Les seuls points communs entre tous les gays, c'est qu'ils sont gays, l'orientation sexuelle, la confrontation à l'homophobie et la crainte permanente du VIH, qu'on en soit atteint ou pas. Ça, je pense que c'est le point commun. Toute la génération AIDS-free, elle est morte de vieillesse, donc celle-là, ils n'existent même plus. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. On a glissé d'un événement qui a été très mal accepté en 99 en France, qui était l'arrivée du Pax, qui a donné lieu à pas mal de déchaînements, pour arriver au mariage, qui a donné lieu à encore plus de déchaînements. Ce qui est relativement paradoxal, puisque le Pax était déjà passé, sauf si on oublie que le Pax, en 99, c'était du caritatif. Le survivant, qu'est-ce qui devient ? Donc là, il y a des gens qui sont déchaînés. C'était tellement excessif que c'était plutôt ridicule. Ça fait marrer pas mal de monde. Tandis que là, le mariage, c'est de l'égalité. C'est pas du tout la même chose. Et dans une société, on est un peu marqué par le fascisme ambiant. Dès qu'une minorité veut l'égalité, c'est quelque part les minorités dictent à la majorité leurs lois. C'est exactement le discours de l'extrême droite qui était très présente dans ce débat. Et donc, c'est très mal accepté. Ce qui fait que tous les gens qui pensaient que l'homosexualité se normalisait, en tout cas, n'étaient plus vraiment un fait social transgressif. Là, ils en étaient pour leurs frais. Ils ont vu que l'homophobie, non seulement existait toujours, mais qu'elle était remarquablement active et que ça pouvait faire descendre quand même des centaines de millions de gens dans la rue avec des slogans juste à vomir, puisque c'était ça. Bon, nous, on n'est pas mieux. On a supprimé les gays, les homos, les PD, les machins. On a des HSH maintenant. On est revenu au 19e, début du 20e siècle. On ne désigne pas un phénomène ou une manière de vivre par son nom, mais par la description clinique. Comme la psychiatrie ou la justice, à l'époque où seule la psychiatrie et la justice s'intéressaient aux minorités sexuelles. Je pense que ce glissement sémantique, il a aussi une grosse importance dans la manière dont les gens peuvent se ressentir. Là, je vais me faire tuer aussi en général par les sociologues quand je dis ça. C'est la récupération finalement en Occident d'un mot qui a été envoyé, qui a été au départ inventé. Comment ? Oui, j'ai peur des sociologues. Moi. Ils sont tous partis, c'est bien. Ah non, c'est vrai. C'est très bien. Ça dépend.
Bah, regarde les statistiques du
NVS. Oui, je suis d'accord, mais je leur dis aussi. Faut pas s'inquiéter. En tout cas, c'est des mots qui ont été inventés pour faire émerger un fait social dans des pays où il n'avait pas de visibilité, où il était même souvent condamné. On l'a importé dans des pays où ça avait une image et on l'a fait régresser. C'est quand même un véritable problème. Alors que le VIH est toujours une identité, une maladie identitaire gay. Je passe sur plein de trucs parce qu'on n'a plus le temps. Dernier point important, je rappelais quand même que l'homosexualité se construit dans une triple transgression. La première, c'est l'acceptation de la différence. C'est quand même, tout le monde vous dira qu'il a commencé son parcours dans la honte. Suis-je normal? Dois-je me faire soigner? En plus, il y a quand même des parents qui emmènent des gens chez des médecins qui vont accepter de les soigner. Donc c'est vrai que c'est quand même, ça n'arrange pas forcément les choses. Le deuxième, c'est celui de la sodomie. Mine de rien, se faire pénétrer quand on est un homme est un passage à l'acte transgressif. Même chez les gens qui n'aiment pas ça, ils ont toujours essayé au moins une fois, parce que sinon, quelque part, il y a une espèce de perte identitaire. Je ne suis pas un vrai PD, je ne suis pas allé jusqu'au bout si je ne suis pas passé par cette expérience. Après, les gens vont continuer ou pas. La nécessité d'ailleurs presque de s'identifier pour encore beaucoup de gens en actif ou passif, comme s'il fallait réimporter les modes sexués dans une relation homosexuelle, ce qui est quand même assez bizarre. Et le troisième, donc le coming out. Que d'autres transgressions par la suite soient plus faciles, c'est évident. Si en plus on devient séropo, je pense qu'il y a quand même un facteur de levée d'inhibition, parce que finalement tout est arrivé. Combien de fois j'ai vu des gens qui sont passés du jour où sont devenus séropo au syndrome un peu du mauvais garçon, où j'aime tatouer de partout, prendre des drogues, des machins, baiser avec tout le monde, etc. Parce que finalement, bon voilà quoi. J'ai cru faire tout ce qu'il fallait pour me préserver. Ça a pas marché. Alors maintenant, merde, tout ce que je me suis interdit pendant des années, je peux quand même me livrer. Ça dure pas forcément très longtemps, mais c'est souvent un passage qu'on va observer chez des gens, souvent relativement transitoire. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, c'est la communauté de le faire, je voulais juste vous dire deux choses. Donc c'est pour ça que la question du risque est quand même beaucoup plus largement identitaire et environnementale que comportementale, si on regarde les choses relativement objectivement, qu'il est important de tenir compte de ce fait quand on fait de la prévention, et surtout de se rappeler qu'une sexualité équilibrée et épanouie reste un support préventif d'une efficacité absolument redoutable. Merci de votre attention.